Bonjour à tous. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si nous sommes rassemblés ce matin autour de la parole de Dieu, a priori, cela ne nous pose pas de problème de croire que c'est effectivement Dieu qui est à l'origine de toute chose. Si Dieu n'avait pas créé la terre et le ciel, il n'existerait simplement pas. En lisant rapidement ce premier verset de la Genèse, on pense que le ciel et la terre forment un tout, puisque depuis le ciel, on voit la terre, et depuis la terre, on voit le ciel. Et donc, on remplace facilement dans notre tête les cieux et la terre par Dieu créa l'univers, ou Dieu créa le cosmos, Dieu créa l'espace intersidéral. Mais, il y a quelques mois, j'ai été interpellé par quelqu'un qui a bien fait remarquer qu'il n'est pas écrit que Dieu créa l'univers avec son ciel et sa terre, mais bien que Dieu, au commencement, a créé les cieux, et Dieu, au commencement, a créé la terre. Alors, devant cette subtilité, des questions ont surgi dans ma tête. Les cieux, qu'est-ce que c'est? Quand savons-nous vraiment de ce qu'est le ciel, de ce qui se passe au ciel? La terre, qu'est-elle devenue? Quels sont les principes, les règles mises en place par le Créateur pour qu'elle soit durable? Dans un premier temps, nous parlerons d'abord de la terre. C'est plus facile à comprendre, puisque ici, nous avons tous, comme on dit, les pieds sur terre. Dans une deuxième partie, nous envisagerons le ciel, un endroit beaucoup plus mystérieux, un endroit où il se passe des choses qui nous échappent, mais un endroit que nous souhaitons découvrir parce que nous pensons qu'après notre vie terrestre, nous aurons une vie céleste dans cet endroit qui est le ciel et dans la présence proche de Dieu. La terre, on la connaît bien, cette bonne vieille terre. Je dis bien cette vieille terre. Certains idéologues n'hésitent pas à affirmer et incitent des chrétiens à croire que la création de la terre s'est faite il y a une dizaine de milliers d'années en 6 fois 24 heures, précise, par la volonté et par la toute-puissance du Dieu créateur. Si cette compréhension était conforme à la réalité, toutes les constatations géologiques, toutes les découvertes de la paléontologie et de l'archéologie et leur datation seraient erronées, et la merveilleuse biodiversité avec des organismes vivants adaptés aux conditions extrêmes de notre planète n'aurait aucune explication. Pour ma part, je pense que Dieu a créé une dynamique, un mouvement qui a fait que les différents éléments terrestres se sont mis en place sur une très longue période, dans l'ordre et conformément au récit de la Genèse. Première étape, la lumière avec le jour et la nuit. Deuxième étape, l'eau, le préalable à tout organisme vivant sur Terre. L'eau, sur Terre, sous Terre et dans l'atmosphère. Troisième étape, le relief terrestre et sa conséquence, la séparation de la terre ferme des océans avec ce merveilleux cycle de l'eau qui ne s'arrête jamais. La vie végétale terrestre peut apparaître dans toute sa diversité. Quatrième étape, le rythme des jours, des saisons, des années, merveilleuse et inéluctable. Cinquième étape, l'apparition de la vie animale, dans l'eau d'abord, c'est logique, avec les poissons, et sur terre ensuite avec les oiseaux. Pour finir, l'apparition des reptiles, des mammifères de toute diversité, et finalement la création de l'être humain. L'homme et la femme créés à l'image de Dieu, pour refléter cette image sur terre, comme l'a bien expliqué Jean-Paul Pelcy, notre prédicateur de dimanche dernier. Et nous lisons dans Genèse 1, versets 27 à 31. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Pour en finir avec les idéologues qui pensent que ces six jours successifs d'action créatrice de Dieu n'ont duré que 6 fois 24 heures, c'est-à-dire 144 heures pour tout mettre en place, il y a également le septième jour où Dieu se repose. Si les premiers six jours ont été des jours de 24 heures, aucune raison pour que le septième jour dure plus de 24 heures. Quel jour sommes-nous donc aujourd'hui ? Dans le psaume 90, il est écrit qu'un jour est comme 1000 ans, car 1000 ans sont à tes yeux, aux yeux de Dieu donc, comme le jour d'hier, quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Revenons à notre terre et ses réalités quotidiennes. Nous lirons dans Genèse 3, versets 16 à 19. Nous sommes encore dans les toutes premières pages du récit biblique. L'homme et la femme, trop bien logés et nourris dans le jardin d'Éden, n'ont pas pu s'empêcher de désobéir au Père Céleste. La liberté leur a été donnée avec un seul interdit, ne pas toucher au fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. L'homme et la femme n'ont pas résisté à la tentation et l'espèce humaine a été chassée du jardin d'Éden. Et donc nous lisons en Genèse 3, versets 16 à 19. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Eh bien, nous y voilà, notre parcours terrestre, génération après génération, jusqu'à nos jours. La naissance, avec les violentes douleurs des contractions de l'accouchement. Les relations mari-femme tendues et houleuses. La nature, qui a horreur du vide, privilégiera la croissance des ronces et des épines. Il faudra se battre et suer un maximum pour pouvoir produire une nourriture nécessaire à la survie de notre corps. Et malgré tous ces efforts, notre vie terrestre est bornée et notre corps humain finira en poussière lorsque notre vie arrivera à son terme. Nous voilà mal barrés, comme on dirait de nos jours. Et là, comme nous l'avons déjà dit, nous ne sommes qu'au début de la Bible. Grosse colère de Dieu, sanctions lourdes et conséquences pénibles. Mais comme nous le savons, Dieu nous tend sa tendre main de Père Céleste pour nous rendre notre vie moins pénible. Allons un petit peu plus loin, dans Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes pas. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Travailler six jours et se reposer le septième jour, le jour du repos de l'Éternel. Ce septième jour est un jour béni et l'Éternel l'a sanctifié. Malgré le fait que nous ne mangerons qu'à la sueur de notre front, Dieu a voulu pour l'homme et le peuple d'Israël en premier, une alternance de périodes de travail et de périodes de repos. Et cette période de repos de l'homme sur terre doit lui permettre de se rappeler que Dieu existe dans le ciel qu'il a créé. Le sabbat, dans la tradition religieuse juive, est réglementé de façon extrême. Jésus, lorsqu'il a vécu sur terre, a pris quelques libertés avec les règles strictes concernant cette journée spéciale. En Matthieu 12, versets 1 à 13, ou en Luc 6, versets 1 à 11, nous voyons que Jésus laisse ses disciples cueillir des épis de blé pour se nourrir et n'hésite pas à guérir un homme dont la main droite était sèche, au vu et au su de tous les pharisiens de la synagogue le jour où c'était interdit. Je vous cite ces derniers exemples, non pas pour changer de sujet ou pour sauter du coq à l'âne, mais pour illustrer que malgré la situation catastrophique initiale de l'homme sur terre, au fur et à mesure que nous avançons dans le récit biblique, notre fardeau trouve des solutions pour être allégé. Jésus a même dit que toutes choses, ces choses terrestres en particulier, nous seront données si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ces différents textes bibliques se complètent les uns les autres et ne s'annulent pas, mais ils nous aident à une compréhension plus équilibrée et non un extrémisme idéologique. Une dernière illustration de notre condition humaine terrestre issue de la désobéissance d'Adam et Ève. Et là, nous lirons dans Luc 13, les versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Violence, oppression, répression sanglante, drame humain, catastrophe. Ce récit du temps de Jésus, c'est presque un journal télévisé actuel. 21 chrétiens coptes égyptiens égorgés par Daesh, tremblement de terre au Népal, plusieurs milliers de morts en Syrie. Lorsque l'épreuve, le drame survient, notre réflexe est d'interpeller Dieu. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? La réponse de Jésus est claire. Aucune des victimes de ces drames n'était plus coupable ou plus grand pécheur que ceux qui ont échappé au drame. Dans certains milieux, au sein même du monde évangélique et lorsque survient le drame, des frères et des sœurs, souvent bien intentionnés à leurs propres yeux, cherchent à mettre le doigt sur ce fameux péché qui aurait suscité le châtiment divin. Mais face à ces accidents de la vie, face à ces drames quotidiens de notre vie ici-bas, seule la repentance honnête et sincère que Dieu attend de la part des hommes et des femmes nous amènera, non pas à une vie sans histoire sur terre, mais au salut éternel. En fin de compte, pas trop jolie la vie sur terre, mais quand même, une lueur d'espoir venue du ciel. Nous y voilà, le ciel créé par Dieu, au commencement. Le terme lui-même est ambigu. Le ciel, l'espace visible avec le soleil, la lune, les étoiles, le ciel météo avec un ciel bleu, un ciel gris, un ciel bas, un beau coucher de soleil bien rouge qui annonce une belle journée pour le lendemain. Ou alors, le ciel invisible. Le ciel, l'endroit où Dieu règne. L'endroit qui nous attend lorsque notre vie terrestre sera à son terme. Tout au long des récits bibliques, j'ai l'impression qu'il y a souvent une ambiguïté sur la vraie nature du ciel ou des cieux invoqués. Au moment du déluge, ce sont les écluses des cieux qui s'ouvrent pour provoquer une inondation sans précédent. Lors de la construction de la tour de Babel, les hommes projetaient de réaliser une tour dont le sommet touche au ciel. Aujourd'hui encore, les hommes sont pleins de projets pour atteindre ce ciel invisible, siège de la présence permanente de Dieu. Le premier homme envoyé dans l'espace, le russe Gagarine, aurait dit qu'il a été dans le ciel et qu'il n'a pas vu Dieu. Dans la conquête actuelle de l'espace, on nous parle souvent de trouver l'origine de l'univers. En quelque sorte, la tour de Babel est encore en construction. Télescope géant, sonde spatiale envoyée au fin fond de l'espace intersidéral. Néanmoins, il est des écrits bibliques où nous avons quelques indications sur ce qui se passe réellement au ciel. Et là, on va lire l'histoire de Job, Job 1, versets 6 à 12. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, à partir de verset 6. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel « de parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » Quelle histoire effrayante ! Satan, l'adversaire, le diable, fréquente les instances célestes et promène son arrogance, sa méchanceté, sa perversité, jusque dans la proche présence de Dieu. Le pauvre Job, croyant honnête et sincère, va subir toutes les épreuves de la vie. Enfant tué par les terroristes, bien matériel détruit par des brigands, maladie chronique, souffrance permanente. Heureusement, Dieu fixe les limites de l'action de Satan et l'issue finale est plus heureuse puisque l'Éternel rétablit Job dans son premier état avec même du bonus. Le ciel est donc bien un endroit où Dieu est souverain, mais Satan, dans la situation actuelle, peut être présent. Une autre histoire dans le livre des Rois, 2 Rois 2, verset 1. C'est l'histoire d'Élie. Élie, le prophète qui ne meurt pas, mais qui est directement évacué de la terre dans le ciel. On va lire 2 Rois 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et puis on va lire un petit peu plus loin comme ça. Et au verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Un film fantastique, des effets spéciaux spectaculaires. Et seul Élisée, le successeur d'Élie, sait que c'est Dieu qui a enlevé le prophète avec un char et des chevaux de feu. directement de la terre vers le ciel, immédiatement dans la présence de Dieu, sans passer par la maladie, la souffrance et la mort. Mais un seul récit de ce type se trouve dans la Bible. Le ciel ne nous est pas accessible en direct. Tous les récits bibliques, lorsque Dieu intervient depuis son ciel sur le cours des événements terrestres, sont entourés de manifestations extraordinaires, souvent mystérieuses et peu accessibles à nos cerveaux rationnels et cartésiens d'occidentaux baignant dans la laïcité ambiante. Néanmoins, le ciel divin a rejoint la terre lorsque Dieu a envoyé son Fils Jésus pour cheminer à nos côtés et nous enseigner à vivre dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Nous lisons dans Luc 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendu sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le ciel s'ouvre, et le Saint-Esprit descend sur le Fils bien-aimé de Dieu le Père. Toujours cette main tendue de Dieu depuis son ciel pour offrir une chance aux hommes et aux femmes qui vivent sur terre de se rapprocher de lui. Et nous prions régulièrement en nous adressant à notre Père Céleste, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les cieux, le ciel, l'endroit où Dieu siège en permanence reste un mystère qui échappe à notre intelligence. Mais la présence des forces célestes est permanente dans notre quotidien terrestre, à condition que nous soyons prêts à les discerner. Un jour viendra où toutes choses seront nouvelles. 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et nous trouvons une description un petit peu plus précise de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 7. Apocalypse 21, versets 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Les conséquences terrestres du choix d'Adam et Ève seront annulées. Larmes essuyées, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. On a l'impression que le ciel fusionne avec la terre, que l'apport céleste changera fondamentalement la condition humaine de ceux qui auront fait preuve de repentance et accepté le pardon des péchés en Jésus-Christ. Pour conclure, du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, le ciel et la terre sont présents, et le ciel est bien différent de la terre. Deutéronome 4, verset 39. Sache donc, en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Ou dans Ecclésiaste 5, verset 1, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, et je vais bientôt me taire. Rien n'est figé dans le marbre. Toute chose avance dans le temps et dans le sens voulu par Dieu dès le commencement et par la force de sa parole créatrice. Dieu lui-même n'est pas lié au temps qui passe. Et pour lui, on l'a déjà vu, un jour est comme 1000 ans. Nous l'avons déjà évoqué dans le psaume 90 et nous le retrouvons dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 et verset 8. Mais il est une chose bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le temps sur terre qui s'écoule inexorablement seconde après seconde, du passé vers le futur avec un présent éphémère, n'est pas le temps du ciel infini et éternel. Notre vie terrestre commence avec les douleurs de l'enfantement. Jour après jour, nous subissons toutes les lois physiques, chimiques et biologiques qui s'imposent à notre condition humaine. Mais Dieu a créé l'homme et la femme libres sur cette terre. Et depuis le jour de cette création, il envoie en permanence à travers les récits bibliques des signes vers la terre. Abraham, Moïse, les prophètes, Jésus son propre fils, les apôtres, l'Église. Dieu nous appelle à choisir la repentance et à demander pardon pour nos péchés, afin de pouvoir un jour accéder dans sa présence. Et ainsi, nous participerons à la mise en place de cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux où la justice habitera. Amen.